Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Voyageurs, la radio qui vous fait voyager autrement, la radio qui vous fait voyager hors des sentiers battus. Aujourd'hui, destination Myanmar, si vous préférez, la Birmanie. Myanmar, c'est le nouveau nom de la Birmanie, c'est un pays dont le nom fait rêver, le pays aux mille pagodes. Rudyard Kipling écrivait « C'est un pays différent de tout ce que tu connais », c'était il y a 100 ans. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, c'est un pays qui est resté relativement préservé du tourisme jusqu'à il y a peu. Alors dépêchez-vous d'y aller. C'est un pays qui a gardé toute son authenticité et qui tient et qui n'est pas encore envahi par les hordes de touristes. Alors si vous aimez voyager autrement, c'est là qu'il faut aller. Pour vous en parler, Aurélie Veil, bonjour. Vous êtes conseillère voyageur. Conseillère voyage spécialiste de l'Asie du Sud-Est chez Voyageurs du Monde, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Chagnal, journaliste, écrivain, grand voyageur, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes évidemment passé par la Birmanie et Michel-Yves Labbé, bonjour.
Bonjour.
Président de l'application Départ Demain, grand voyageur également qui est passé par la Birmanie. On aura en ligne avec nous Marion Sabrier qui est enseignante, chercheur, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Elle est amoureuse de la Birmanie, elle a publié le dictionnaire insolite de la Birmanie aux éditions Cosmopole. Alors, la Birmanie, c'est un pays, encore une fois, je dis, qui fait rêver, qui a connu un vrai engouement. Il y a eu une vraie mode pour la Birmanie il y a quelques années. Et puis là, l'intérêt est un petit peu retombé. Aurélie Veil.
Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'avec la communication sur la libération d'Aung San Suu Kyi il y a une petite dizaine d'années, un petit peu moins, c'est vrai que l'engouement s'est créé puisque c'est une destination qui est très, très authentique, hein, qui est vraiment sortie de 50 années de dictature. Donc, on est vraiment sur une destination hors du temps. Après, les effets de mode ne s'expliquent pas. Donc, pour moi, c'est vrai que il y a eu un engouement, on va dire, jusqu'à 2015-2016. C'est un petit peu retombé, sûrement par rapport aux actualités politiques aussi. Ça reprend un petit peu en ce moment. Voilà, c'est pour moi des vagues.
C'est un pays où on peut aller à Noël. En l'occurrence, il reste de la place, peut-être pas en balnéaire, mais si on veut visiter Bagan, on va revenir, on va vous expliquer un petit peu. Mais il reste de la place aujourd'hui.
Absolument, absolument. On travaille malgré tout avec très peu d'hôtels chez Voyageurs du Monde, puisque c'est déjà une destination où il y a peu d'hôtels. Et nous avons notre petite sélection, mais c'est encore possible. Et effectivement, la partie balnéaire, par contre, voilà, c'est vrai qu'entre les expatriés, les touristes locaux, etc., c'est complet depuis au moins 3 mois.
Oui, les bonnes questions à se poser avant de partir. On y va quand? À quelle période?
Alors, on va dire entre octobre et avril. Moi, je vais plutôt avoir un faible pour les mois d'octobre-novembre parce qu'en sortie de mousson, on a vraiment des paysages extraordinaires. Je trouve que voir Bagan dans une campagne verte va vraiment faire des couleurs incroyables. Et après, au final, on peut aussi partir en été parce que c'est une destination qui est assez préservée des pluies. Les sites à visiter n'étant pas sur les côtes, on a finalement... C'est relatif, moins de pluie à Bagan ou au lac Inle que sur la côte vietnamienne, par exemple. Donc, on peut aussi partir en été.
Alors, autre question, avec qui on part? Est-ce qu'on part avec des enfants, des jeunes enfants, plutôt des ados?
Bah, ça reste une destination quand même assez culturelle et contemplative. Donc, des jeunes enfants, ce n'est pas une destination d'activité. Je pense qu'il faut quand même créer un intérêt, donc plutôt
destination d'adultes et d'ados.
Tout à fait.
De grands ados. Jean-Pierre Chagnal, la Birmanie, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce pays?
La ferveur.
Ouais.
La Birmanie est un pays qui, bon, pour faire simple, on va dire que c'est le sud-est asiatique,
ouais.
Même si ça l'est un petit peu moins que les autres. Mais la preuve, une frontière avec la Thaïlande. Et pendant très longtemps, c'est vrai que le début du tourisme, c'est les années 90, c'était donc une pépite restée à l'écart des grands mouvements qui touchaient la Thaïlande, le Vietnam et autres pays de la région. Et cette Birmanie était un peu une miraculée des flux touristiques. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait un régime très dur à sa tête, des militaires qui interdisaient tout, y compris le passage des frontières, qui interdisaient le développement touristique avec des hôtels ouverts par ces vilains capitalistes. Bref, il n'y avait rien qui permettait de faire un voyage facile en Birmanie. Puis depuis, ça s'est ouvert. Alors, pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur, c'est qu'on retrouve un pays relativement intact. Et quand je dis la ferveur, c'est quand même frappant. C'est un pays où, certes, le bouddhisme est religion d'État. On l'a vu avec cet épisode effroyable des Rohingyas,
ouais.
Puisque ne pas être bouddhiste veut dire être un ennemi du pays, un ennemi du système des généraux. Donc, avec toutes les horreurs que ça comprend, ça laisse pour le reste, 80%, 85% de la population quand même, une ferveur envers le lumineux Bouddha qui est touchante parce que tout simplement c'est le quotidien de ce pays. Ce pays vit du matin la quête des lamas, des moines qui viennent chercher leur bol de riz, jusqu'au soir, les dernières prières à l'heure où le soleil se couche sur les dômes dorés, c'est en permanence un appel aux vertus du ciel, aux valeurs du cœur et à ce qui fait l'insaisissable de notre quotidien. Mmh. Et puis, deuxièmement, il faut dire quand même que c'est un pays qui avait, avant l'ouverture autorisée, donc toujours maintenant, des trésors touristiques absolument incomparables. Ouais. Quand on parle de Bagan, on va y revenir, d'accord. Ouais. Cette vallée des stupas, des 1000 temples, ouais. 2000 en l'occurrence, c'est au niveau des pyramides d'Égypte, ouais. c'est au niveau c'est du Grand Canyon du Colorado, ouais. c'est au niveau des sites qui sont uniques sur la planète. Ouais. Et le lac Inle, j'en parle pas.
Là, enfin, aussi, on va en parler.
On va en parler, mais je voulais pas déflorer le... Mais c'est pour citer trois ou quatre Mandalay, Rangoon bien entendu, trois ou quatre sites touristiques de la Birmanie qui sont tout à fait uniques. Mmh. J'ajoute, et je termine après pour laisser la parole à mes charmants amis, c'est que pendant très longtemps, la Birmanie a aussi vécu sur un régime financier. Donc, pour les touristes, très avantageux. Rien n'était cher. J'emploie l'imparfait parce que, tout simplement, depuis qu'ils se sont rendus compte que le pays attirait beaucoup de gens, c'est un peu la folie des prix, en particulier pour ce qui concerne les hôtels. Vous pouvez fort bien vous retrouver du jour au lendemain avec 50% supplémentaire sur votre note d'hôtel. Eh bien, c'est comme ça. Bon, et là, je termine, mais vraiment, je termine avec, en plus, le potentiel de ce pays qui n'a pas encore tout révélé dans ses trésors. Et en particulier, on y reviendra sur l'archipel du sud de la Birmanie, celui qui est tout proche de la Thaïlande, donc l'archipel des Mergi, qui est actuellement en pleine construction, en plein développement. Attention, attention, parce qu'on a plutôt tendance à y construire des trucs qui ne sont pas terribles, mais ça n'enlève rien au charme des plages, de l'eau turquoise et de cette extraordinaire aventure des gens qui vivent sur place, les marins nomades, ces gens qui ne vivent que sur leur bateau. On y reviendra.
On y reviendra. Il y a effectivement beaucoup de choses à découvrir. Encore une fois, pays relativement préservé du tourisme. Donc, c'est allez-y, allez-y. Non, Michelier, vous n'êtes pas d'accord ?
C'était préservé du tourisme. Là, maintenant, il y a quand même pas mal de monde qui y va. C'était difficile à l'époque d'avoir les visas. Il n'y avait pas tellement de liaisons aériennes et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est devenu quand même très, très, très touristique.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Il y a du monde.
Pour y être allé il y a deux ans, pour être allé à Bagan il y a deux ans, ça reste, si on compare encore ce que vous vouliez dire, vous aussi, Aurélie, c'est qu'on se balade comme on veut dans Bagan. On peut être seul au milieu des temples. Aujourd'hui encore, c'est absolument...
Pas au coucher du soleil.
Si, si.
Bon,
si
tant
vous
mieux,
pouvez...
tant
si,
mieux.
Si, si,
tant
si vous installez sur un temple, ce qu'on a fait, on a trouvé un temple où on a pu grimper et on s'est installé, on était tout seul sur notre pagode et on a pu voir un coucher du soleil. Donc c'est tellement grand. Enfin, je sais pas, Aurélie, si on compare effectivement avec ce qui est devenu Angkor aujourd'hui.
Non, mais je compare pas avec Angkor. Je dis simplement que c'est quand même devenu plus touristique
que ce ne l'était
auparavant. Il y a quand même des endroits où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent à Rangoon en particulier. Mais pour revenir à ce que disait Jean-Pierre, il faut se rappeler aussi, c'est un pays très bouddhiste, mais il faut se rappeler que les moines bouddhistes ont été contre les généraux. Ils ont mené quand même une révolte contre le pouvoir militaire qui a amené quelque part une souplesse, enfin une meilleure... une démocratisation de la vie politique en Birmanie qui ont amené cette ouverture à l'Occident tel que c'est maintenant. Donc c'est un pays formidable. Ce sont des gens qui sont d'une douceur extrême, d'une gentillesse extrême. Je pense d'ailleurs que s'ils étaient un peu moins doux, ils auraient supporté moins longtemps cette dictature des militaires. Et c'est un pays qui a des sites fantastiques, effectivement, énormément de choses à voir. Et c'est peut-être aujourd'hui en Asie du Sud-Est, c'est le plus typique et le plus vrai de tous les pays d'Asie du Sud-Est, parce que c'est le seul qui ne soit pas encore très colonisée par tant les Chinois, les Thaïlandais et la culture occidentale. Donc effectivement, il faut s'y presser, il faut s'y précipiter même, parce que peut-être que ça ne durera pas comme ça. Jean-Pierre disait que l'archipel des Mergis, dont personne n'a jamais entendu parler, ils sont déjà en train de construire des buildings. Et donc il faut quand même se méfier un petit peu de ça. Alors ils font pas des buildings partout, certes, mais il faut s'en méfier parce que à côté, les Thaïs, ils en ont fait un peu partout. Donc allons-y, allez-y très très vite. C'est un pays qui ne déçoit jamais.
Ouais.
Ce n'est pas hors de prix. Ça a augmenté, mais ce n'est pas hors de prix. Et la vie sur place, évidemment, est donnée.
Oui, très peu cher. Ouais. Aurélie, sur cet aspect assez authentique du pays.
Bah, c'est ça, en fait. C'est que, après, chacun recherche des choses différentes dans un voyage, mais quelqu'un qui veut voir l'Asie authentique et les traditions, il est tout de suite dépaysé, même en arrivant à Rangoon. Parce qu'il y a déjà cette première chose qui est frappante, je trouve, c'est le côté traditionnel des gens au niveau de l'habillement. Ouais. Les hommes portent des longis, c'est comme un sarong, comme un pareo. Tout le monde est en jupe en Birmanie. Et toutes les femmes ont cette poudre sur les joues, le tanaka. Donc on est tout de suite dépaysé, même en ville, même absolument partout. Donc c'est vraiment ce côté-là, je trouve, qui est impressionnant. Et le côté aussi vivant, comme vous disiez sur le côté bouddhiste des gens, c'est que même à Bagan, dans chaque temple, dans chaque pagode, il y a de la vie. Il y a des enfants, il y a des familles. Et du coup, on ne voit pas que des pagodes, ce qu'on peut souvent entendre. On voit aussi la vie quotidienne.
Et soulignons un trait qui les différencie des autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est les bras ouverts, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez à la rencontre d'un Birman, il est immédiatement dans l'accueil, la bienveillance. Essayez de faire la même chose en Thaïlande, au Vietnam, je ne parle même pas de la Chine, où là, comme vous n'existez pas, vous ne risquez pas d'avoir des bras ouverts. En Birmanie, oui, si, on vous invite. Hein. Vous pouvez passer le pas de la porte.
Je pense que c'est dû au fait qu'ils n'ont vu personne pendant 50 ans et qu'aujourd'hui, ils sont heureux qu'on vienne les voir, qu'on s'intéresse à leur pays.
Et sans doute d'un bouddhisme ouvert
à Bagan, justement, où
l'échange,
quelqu'un
le
nous a ouvert sa pagode à lui qu'il avait repeint et qui était fermée à clé. Et il était très fier et très content de nous montrer. Donc c'est une population effectivement assez accueillante.
Vous ne trouverez pas ça ailleurs dans la région.
Ils ont le bouddhisme, c'est le petit véhicule, pense. Hein. Donc c'est le même qu'au Cambodge et c'est assez lent.
Oui, Rangoon, c'est une ville qui fait rêver et qui en même temps peut être déceptive. On dit qu'on n'est jamais déçu, mais ce n'est pas une ville très intéressante.
Oui, exactement. C'est vrai que, en premier conseil, peut-être ne pas commencer par Rangoon. Souvent, c'est quand même mieux d'arriver sur Mandalay, qui est la deuxième ville du
pays.
Comment
on fait pour arriver sur Mandalay ? On peut ? C'est possible ?
Oui, tout à fait.
De Bangkok, il y a des vols maintenant.
De Bangkok, et les compagnies aériennes comme Qatar ou Vietnam Airlines s'y intéressent. On n'a pas encore ouvert de liaison directe, mais c'est vraiment le mieux pour le dépaysement, c'est de commencer par Mandalay. Parce qu'effectivement, Rangoon, on est dans une ville qui se construit un peu comme Phnom Penh, après les Khmers Rouges, un peu dans tous les sens. Et du coup, voilà, c'est pas forcément ce qu'on attend de la Birmanie.
Mais il y a la pagode.
Il y a la pagode, il y a la vie actuelle. Il y a aussi la Birmanie en 2018 avec les étudiants, les gens qui travaillent. C'est pas non plus que des villages et des pagodes. Donc c'est aussi très intéressant pour ce côté actuel.
Moi, j'ai une question. Qui vole au départ de Paris sur Rangoon aujourd'hui ?
Alors, aucun vol direct pour la Birmanie.
Non, mais via une escale.
Il y a la taille.
Le plus confortable, effectivement, c'est la taille, puisqu'on fait Paris-Bangkok en A380, puis ensuite Rangoon ou Mandalay. Mais sinon, vous avez Emirates, Singapore Airlines, Vietnam Airlines.
Doha, Rangoon.
Toujours avec une escale, tout à fait.
Une escale à Doha ou à Dubaï.
Donc, ils
volent directement sur Rangoon.
Oui.
Ce qui n'était pas le cas auparavant, attention.
Il y a une escale technique à Bangkok. Pour les Emirates, on reste dans l'avion, on ne sort
donc
pas.
Donc on fait deux escales. D'accord. Il n'y a que la Thaï où on y va avec
en
une
direct,
seule escale.
Bangkok et après...
Et Singapore Airlines et Vietnam Airlines. C'est vraiment les trois avec une seule escale.
Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait Rangoon, Singapour, c'est vrai.
Donc Mandalay, vous recommandez, donc c'est une ville qui est beaucoup moins oppressante que peut l'être Rangoon. Rangoon, on l'a dit, il y a une pagode, la fameuse pagode
Shwedagon,
qui est très impressionnante.
Impressionnante, unique.
C'est unique au monde, cette pagode
on la voit de toute
entièrement dorée, oui, absolument.
Et c'est une pagode qui vit.
Exactement, encore une fois, le soir, tous les Birmans, après le travail, vont prier, vont en famille. En fait, c'est tout aussi intéressant de voir la pagode, mais de contempler la vie des habitants qui viennent le soir.
Ouais, il faut dire que la pagode sont les bâtiments consacrés au culte bouddhique. Hein. Je prends le petit livre de Marion Sabrier, c'est ce qu'elle nous dit dans son dictionnaire insolite de la Birmanie. On va essayer de l'appeler. Il y en a partout des pagodes. Hein. C'est un truc de
la religion quadrille la vie de la Birmanie et donc de ses habitants. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas un Birman qui n'a pas ses devoirs religieux dans la journée, depuis la prière du matin jusqu'aux offrandes du soir avec les bâtonnets d'encens. Et qui, je veux dire, c'est pas de la triche, c'est pas pour la carte postale, ni pour votre vidéo ou votre photo, et encore moins pour votre selfie. Lui, c'est sa vie. Ça quadrille sa vie du matin jusqu'au soir.
Le lieu incontour, oui, Michel.
Mandalay, parce qu'on parlait de Mandalay. Ouais. Moi, j'adore Mandalay, parce que Mandalay, c'est chinois.
Ouais.
C'est une ville chinoise, quoi. Hein, c'est vraiment. Alors, il y avait un problème à Mandalay, et vous allez me dire ce qu'il en est. C'est qu'à une époque, ils construisaient un barrage autour, et les hôtels de la ville, dont le Novotel, qui était un très bel hôtel, étaient entièrement pris par les ouvriers, enfin les cadres, et ainsi de suite de ça. Est-ce qu'il y avait d'énormes problèmes de logement à Mandalay? Est-ce que c'est toujours le cas ou il n'y a plus de soucis?
Alors,
s'il n'y a plus de soucis, tant mieux.
Alors,
le barrage est terminé, Michel.
Oui,
je ne suis pas sûr.
Mais ce n'est pas une ville d'hôtels de charme, honnêtement. Il y a deux hôtels.
Si, il y en a chez Voyageurs.
Il y en a deux.
Ouais.
Voilà, non, deux, mais c'est compliqué.
Mais il faut savoir que ce n'est pas un pays de tradition d'hôtels de charme non plus, par. Un ou deux hôtels.
Dans une administration, une économie qui est ficelée par les militaires, vous ne pouvez pas avoir d'hôtels de charme. Ces gens-là ont la culture des chambres identiques qui s'alignent sur des mètres et des dizaines de mètres et qui sont toutes pareilles. Donc le charme, on oublie.
C'est en train d'évoluer quand même.
Ça bouge quand même.
Quand on va à Bagan ou à la Quinée, il y a des choses assez jolies. Donc parlons de Bagan qui est quand même.
Mais Mandalay, c'est magnifique. Parce que le fleuve et tout est splendide. Le pont de Tech, là.
C'est le pont où baigne, le fameux pont.
Magnifique, ouais.
Et puis, c'est tout le côté historique. En fait, on commence par cette partie où, à l'époque, les rois birmans construisaient leur propre capitale à chaque fois qu'on changeait de roi. Donc, en fait, la région de Mandalay, on a 5-6 anciennes capitales et on commence à comprendre la Birmanie, son histoire. Je trouve que c'est un beau début de voyage.
Ouais. C'est un beau pays au niveau des paysages aussi, qu'on peut traverser quand on se promène avec énormément de villages et puis tous ces champs. Il y a du coton, il y a des rizières, il y a des très beaux paysages.
Alors, vous pouvez par exemple découvrir au cours d'une croisière sur l'Irrawaddy, qui est le principal fleuve qui traverse la Birmanie. Il y a plusieurs compagnies de bateaux, vous n'êtes pas obligé de partir pour une semaine sur l'eau. 1, 2, 3 jours vous suffisent amplement pour là d'abord faire une petite pause et deuxièmement voir ce qu'est vraiment la campagne birmane, très intéressante. Et sur le même registre que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire des gens simples, accueillants et pleins de ferveur.
Oui, parce que le réseau routier n'est pas bon.
Exactement.
Le réseau de train est lent, très lent, date de la colonisation anglaise. Et donc, en général, on fait ça en avion.
Ouais.
On se déplace en avion, ça marche très très bien. Il y a de nombreuses compagnies intérieures et qui font un espèce de circuit comme ça tous les jours. Et donc, si on se déplace en avion, on voit moins le paysage. Alors, effectivement, la descente entre Mandalay et Bagan, du fleuve, ou la remontée d'ailleurs, est quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que les gens vivent aussi au bord du fleuve.
On est en ligne avec Marion Sabrier. Bonjour. Vous êtes chercheur géographe, vous enseignez à Paris 13 et vous avez enseigné au Langso. Vous avez publié un petit livre dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, le Dictionnaire insolite de la Birmanie, qui est paru aux éditions Cosmopole. Vous êtes une amoureuse de la Birmanie. Vous aviez dit à votre grand-père quand vous aviez 15 ans que vous iriez là-bas. Vous y êtes allé, vous y avez vécu 3 ans. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce pays ?
Alors, avant d'y aller, j'avais une vision assez, vraiment assez tronquée, en fait, je pense, du pays. Enfin, de ce qu'on en dit un peu, en France, en fait, souvent une image, enfin, à l'époque, en tout cas, encore plus inconnue qu'aujourd'hui, assez exotique. Et après, quand je m'y suis rendue, je suis vraiment tombée sous le charme à la fois des habitants et également, en fait, des paysages, de tout ce qu'il y avait à découvrir là-bas.
Vous y avez vécu, en plus, pendant la junte militaire.
Oui, tout à fait, oui.
Donc c'était pas une
Puis,
peur.
enfin, j'y étais déjà allée même avant d'y vivre, et puis après j'ai continué à régulièrement en fait m'y rendre. Et c'est vrai que le pays a beaucoup changé depuis, mais il y a toujours encore beaucoup d'endroits à découvrir et qui sont encore comment dire restés assez comment dire assez authentiques, on va dire.
Oui, vous dites dans votre livre, pour peu que nous souhaitions sortir des sentiers battus, ce sont des régions entières avec des ethnies particulières, des cultures spécifiques, une végétation et un climat distinctif qui s'offrent aux amateurs d'aventure. Ça reste vrai encore aujourd'hui, hein.
Oui, tout à fait, parce que en fait la plupart, la plupart des gens qui s'y rendent, la plupart des voyageurs vont souvent en fait dans, on va dire, dans quatre lieux spécifiques. Enfin, la plupart du temps, ils arrivent à Rangoon, ils vont souvent à Mandalay, à Pagan et au lac Inlet. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein d'autres villes ou plein d'autres régions qui sont moins connues et sous lesquelles on peut facilement,
Alors, où qu'est-ce que vous nous
enfin, en
donnez,
tout cas,
vous,
desquelles on
comme
peut.
vous qui connaissez donc très très bien, qu'est-ce que
Oui.
vous vous donnez comme conseil pour sortir un petit peu des lieux les plus touristiques?
Alors, faut pas hésiter à prendre le train, enfin même remplacer par exemple le bus par le train, même de par exemple de Rangoon à Mandalay. D'accord, ça prend plus de temps, mais ça en vaut la peine. Après, un des trains que moi j'aime beaucoup, c'est celui qui fait la liaison entre Mandalay et Michina. Et là également, en fait, on peut vraiment rencontrer les habitants et puis voir des paysages. Spécifique et assez authentique. Et puis on peut aussi en fait rencontrer d'autres cultures, parce que c'est vrai que quand on reste dans les quatre villes que j'ai citées tout à l'heure, enfin les quatre régions que
Oui.
j'ai citées tout à l'heure, c'est souvent en fait l'ethnie majoritaire avec aussi une culture et une nourriture qui lui est propre. Et dès qu'on s'écarte un peu, là on va découvrir des nourritures beaucoup plus épicées, enfin d'autres saveurs, et d'autres langues également.
Vous dites dans votre petit dictionnaire, vous parlez d'un endroit qui s'appelle, alors je sais pas si je prononce bien, Kiaoutan.
Chautang, oui.
Oui, donc vous dites c'est à une trentaine de kilomètres au sud de Rangoon. Et là, on est dans un endroit absolument incroyable, sur une sorte de pagode flottante.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, c'est à 30 km au sud de Rangoon. Donc, c'est vrai qu'on peut y aller aussi par les moyens de transport locaux. Donc, ça peut être assez épique, on va dire. Et comment dire, cette pagode, en fait, celle qui est surnommée la pagode flottante, c'est un temple, en fait, qui est au milieu d'une rivière. Et on s'y rend en bateau. Et là, en fait, on est vraiment au milieu d'un flot de pèlerins birmans. Qui vient s'en là, qui vient prier, et ensuite qui nourrit les carpes sacrées de la pagode. Et c'est vrai que c'est très proche de Rangoon, et en même temps totalement, en fait, vraiment là on tombe en plein milieu des activités quotidiennes des Birmans.
Vous parlez également du Bouddha de la jungle.
Alors le Bouddha de la jungle, alors oui, c'est celui de Pahin. C'est vrai que c'est un Bouddha qui est un Bouddha en fait pratiquement caché, on va dire, en tout cas qui a été caché pendant très très longtemps, qui aujourd'hui est un peu plus accessible. Mais c'est pareil, en fait, on est en fait dans l'état Mon, pas très loin de la frontière avec la Thaïlande. Et là, pareil, en fait, aujourd'hui les gens commencent petit à petit à y aller, mais auparavant, en fait, c'était vraiment déjà un site un peu lointain des circuits habituels touristiques.
Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'on n'ait pas d'explication justement sur le fait qu'il n'y ait pas de deux roues à Rangoon? Parce que vous donnez deux ou trois hypothèses, moi j'en ai une autre, Aurélie qui est ici en a une autre, donc quelle est la vérité?
Alors, je pense que ça fait partie un peu, en fait, des mythologies, on va dire, qui existaient aussi, en fait, lors de la junte militaire. C'est-à-dire qu'en fait, les dictateurs ont pu prendre, en fait, les décisions qu'ils voulaient à cette époque-là. Et après, en fait, souvent, elles n'ont pas été expliquées par eux. Et donc, chacun, en fait, a créé, en fait, sa propre histoire, autour de ça. En tout cas, oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très rare de voir une ville, comment dire, une grande ville, une grande métropole d'Asie, sans deux roues, parce que, enfin, c'est même pas le cas de la seconde ville du pays, Mandalay, où là, il y a toujours eu des vélos, des motos, donc c'est vrai que c'est
C'est une
assez
particularité
étrange.
de cette ville. Restez avec nous si vous avez. Oui, Michel-Yves.
Oui, bonjour. J'avais une question à vous poser.
Bonjour.
Les dictatures militaires ou les dictatures tout court ont toujours eu des velléités d'architecture. Et qu'est-ce que ça donne à cette capitale birmane qui a été créée ex nihilo de la jungle? Vous y êtes allé?
Alors, je me suis déjà rendue, oui, à Naypyidaw. C'est vrai que c'est très étrange, ça donne un peu des frissons, on va dire, quand on y est. Parce que c'est une ville qui n'a rien d'une ville birmane. Déjà, c'est une ville qui s'étend vraiment sur une centaine, plusieurs centaines de kilomètres carrés, avec très peu d'habitants. Et c'est de très, très larges avenues, parfois même des quatre voies au milieu de rien. Quelques ministères cachés ici ou là, derrière plein d'arbres. Et c'est vrai que c'est très étrange parce qu'on ne retrouve plus du tout, en fait, les marchés, les vendeurs ambulants. En fait, il n'y a jamais personne sur le bord de la route. Les gens, en fait, ne vivent pas du tout dans la rue. Les marchés sont presque absents, ou en tout cas lointains. Il n'y a pas véritablement de centre-ville. Donc, c'est vrai que c'est une ville qui a été créée ex nihilo. Pas très loin d'une autre grande ville birmane qui s'appelle Piemana, où là, vraiment, on retrouve... la spécificité de la culture birmane. Mais Naypyidaw, c'est très, très étrange. Après, par contre, on y retrouve quelques éléments de Rangoon. En fait, il y a deux, trois choses qui ont été copiées sur Rangoon, comme la pagode, qui est vraiment une réplique de la Chouedagon de Rangoon. On a quelques éléments, en fait, qui font qu'on est toujours en Birmanie, mais sinon, on pourrait être totalement ailleurs.
Ouais, c'est un peu une ville fantôme, non? C'est un peu le sentiment qu'on a dans cette ville? C'est-à-dire qu'il y a des habitants, il y a des gens qui se promènent, non? C'est vide complètement.
Non, c'est pratiquement vide. Souvent, on peut croiser quelques voitures. Voilà, on va croiser un bus. Après, il n'y a que aux horaires, peut-être, lors des migrations pendulaires, en fait, des fonctionnaires, quand ils se rendent dans les ministères et quand ils en repartent. Là, on a plusieurs bus, qui vont sur les routes. Mais sinon, c'est vrai que en journée, il n'y a personne. Ouais. On pourrait marcher au milieu de la rue, sans aucun problème.
Bon, il y a plein de petits trucs, beaucoup de petites anecdotes et de choses à découvrir dans votre dictionnaire insolite de la Birmanie. Juste parlez-nous de Salé.
Alors,
le Kama Sutra de Salé que vous racontez dans votre livre.
Oui. Alors Salé, pareil, c'est aussi une destination qui, la plupart du temps, où les touristes ne vont pas tellement. C'est une sorte de ville de province, mais très très calme, avec beaucoup de pistes en terre battue et des monastères, et dont un monastère en bois, en fait, qui est magnifique. Et lorsqu'on s'approche, en fait, de ce monastère, on trouve, en fait, beaucoup de thèmes du Kama Sutra. En fait, c'est des sortes de bas-reliefs du Kama Sutra. Donc, ce qui est très étonnant, en fait, pour un monastère birman, surtout que vraiment, la culture birmane, c'est vrai que les Birmans vont rester assez prudes, en fait, comme ça. Même si, on va parler avec des amis de sexualité, mais plutôt les hommes. Mais c'est vrai que c'est plutôt une société assez prude. Et donc, c'est vrai que c'est très, très étonnant voir ces bas-reliefs sur ce monastère.
Merci. Restez avec nous si vous voulez participer à la conversation. J'ai appris aussi dans votre petit guide, dans votre dictionnaire, qu'il y avait une synagogue à Rangoon. Il reste une vingtaine de juifs, en fait, et cette synagogue qui avait été détruite a été réhabilitée par quelqu'un là-bas. Michel-Yves, Bagan, c'est incontournable, évidemment, quand on va en Birmanie.
Bien sûr, oui, absolument.
C'est une ville, la ville au combien 2700 pagodes.
Oui, de toute façon, je pense
sur
que
les
personne...
4000 qu'il y avait à l'origine.
Oui. Personne ne va en Birmanie sans passer par Bagan. Hein. C'est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire au lever du soleil, quand vous êtes en montgolfière. Faites le tour en montgolfière, c'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas louper. Et c'est aussi exceptionnel, évidemment, au coucher du soleil. Hein. Mmh. C'est aussi le bord du fleuve qui est assez intéressant, ouais, à Bagan. Pas que des pagodes, parce qu'au bout d'un moment, pagode, je veux dire, on en fait beaucoup. Hein. Et il y a tout le bord du fleuve qui vit comme ça. Et le soir, on dîne aux chandelles, enfin aux lampions au bord de ce fleuve. Moi, j'ai beaucoup aimé Bagan, mais j'aime beaucoup Mandalay. Et sachant qu'évidemment, pour moi, le summum, c'est le lac Inlay. Parce que ça, c'est vraiment un autre monde.
Oui.
Je suis assez d'accord, effectivement, sur... déjà, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, Salé n'est pas loin de Bagan, ouais. Et que du coup, chez Voyageurs du Monde, c'est un monastère qu'on propose et on peut vraiment s'y rendre à la journée. Ça fait une journée un petit peu campagne,
qui est différenciante
un petit peu des temples. Mais oui, ce côté fleuve à Bagan est très intéressant aussi, et c'est aussi pour ça que le côté croisière est arrivé à Bagan par le fleuve. La deuxième fois que j'y suis allée, l'ami avec qui j'étais n'avait jamais vu Bagan, et de commencer à découvrir ces temples le long du fleuve, c'est quelque chose de mémorable, je
Michel
pense.
Jean-Pierre.
Oui, bon, je comprends, hein, parce qu'avec le savoir de Michel Yves, tout le monde a envie d'être appelé Michel Yves. Non, Bagan, pareil, comme il le fait si bien, en précisant que la Montgolfière est aussi l'activité que je préfère. Le matin, 6h du matin, quand les brumes du fleuve 5h45, merci, envahissent toute la vallée, que les eaux de l'Irrawaddy, comme ça, scintillent au loin. C'est vraiment un des plus beaux spectacles du monde, avec une émotion qui vous saisit quand vous pensez que tout cela date du 11e, 12e, 13e siècle et que c'est le capital vivant de la Birmanie, puisque toutes ces pagodes, dagoba et autres temples, pour beaucoup, sont toujours fréquentées, honorées de quelques fleurs, d'un bol de riz, et que tout cela continue à vivre. Je signale au passage qu'on n'est pas obligé non plus de monter dans une montgolfière,
c'est quand même très cher.
250 euros, plus de 300 dollars.
295 dollars.
250 euros.
Mais je parlais en euros,
mais
250.
Par personne, bien entendu.
Donc c'est un budget. On peut aussi louer un vélo, tout simplement, parcourir à cheval, y compris des vélos électriques,
parcourir à cheval, des petits scooters.
Bon, il y a mille manières, ou à pied, tout simplement, il y a mille manières de découvrir Bagan, et franchement, là, vous vivrez une des plus belles aventures de votre voyage, voire de votre vie de voyageur.
Absolument. Marion Sabrier, vous avez une remarque à faire sur Bagan ?
Sur Bagan, c'est vrai que les abords du fleuve sont très très chouettes. Après, en fait, Bagan, il faut savoir qu'en fait, lors de la dictature militaire, les habitants, en fait, ont été chassés, les villageois ont été chassés de Bagan. Et donc, je conseille aussi de s'aventurer dans les villages qu'il y a aux alentours de Bagan, où on peut voir également, en fait, des artisans produire, par exemple, la laque qui vient vraiment de la région, ou d'autres spécialités. Voilà, ça peut être des spécialités culinaire, il y a par exemple de la pâte fermentée noire, pâte de soja fermentée noire, qui aussi peut se déguster dans ces villages. Donc c'est vrai que les temples, c'est très très, enfin, vraiment quelque chose d'incroyable à voir, mais c'est également en fait intéressant d'aller voir aussi voilà, aux abords du site archéologique à proprement parler.
De voir les villages, oui. Michel,
j'ai entendu dire qu'il y avait un marathon de Bagan. Je crois qu'il y a un marathon qui est organisé au milieu du site l'année prochaine. Et ça doit être quelque chose de formidable pour ceux qui sont coureurs, en tout cas coureurs
comme
à pied. J'ai couru, mais pas à pied. Mais
non, donc, c'est un site assez exceptionnel.
Ouais, ça doit être quelque chose de fantastique, je le dis pour ceux qui nous écoutent.
C'est possible,
et
il y en a au temple d'Angkor, en tout cas, tous les ans, au mois de janvier.
Ben là, ils font à Bagan aussi.
À Bagan aussi. On se dirige vers le lac Inlay. Donc le lac Inlay, là aussi, c'est un dépaysement absolument incroyable. On y arrive par une espèce de bateaux longs, de pirogues, hein, c'est le mieux pour y arriver. Voilà. Et qu'est-ce qu'on... Alors, on n'a pas parlé de l'hébergement à Bagan, il y a des hôtels tout à fait corrects. Et...
Tout à fait,
beaucoup,
enfin, l'hébergement en Birmanie, encore une fois, il y a quand même de très très belles choses, mais voilà, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de 5 étoiles luxe, ce n'est pas encore d'actualité à part à Rangoon,
mais il y a des hôtels confortables.
Il y a des très jolies choses avec des belles vues, notamment sur les pagodes, puisqu'il y en a tellement partout qu'il y en a aussi dans les hôtels. Et c'est vrai que sur le lac Inlay, c'est quand même un point d'orgue, puisque là, on va avoir des hôtels qui sont sur pilotis sur le lac. Et du coup, au niveau des vues, des paysages, la brume le matin quand on se réveille dans sa petite villa sur pilotis, c'est quelque chose.
Il fait froid.
Tout à fait.
C'est une région où il peut faire froid le matin.
Exactement.
Alors, moi, je vais donner un conseil pragmatique. C'est bien d'être au bord du lac, mais pas trop au bord. C'est-à-dire qu'il faut être en dehors du cheminement, parce qu'il y a plein de bateaux qui s'appellent des long tail, là, avec le moteur qui fait un bruit épouvantable et l'arbre d'hélice qui fait 5 mètres de long. Et eux, ils s'en vont depuis la ville de la côte, là, jusqu'à l'intérieur du lac. Et ça, ils font un bruit épouvantable. Et donc, si votre hôtel est juste au bord du lac, au début, au débouché, et vous avez un bruit, vous souffrez du bruit. Par contre, s'il est dans une petite crique, dans une espèce d'alcôve côtière, et ainsi de suite, derrière, par exemple, les rizières flottantes, enfin les champs flottants, eh bien là, vous n'avez plus cette nuisance sonore et vous profitez encore plus du lac.
Oui. Jean-Pierre ?
Oui, Lac Inlay, évidemment, c'est le romantisme absolu, c'est la carte postale, selfie s'il vous plaît, avec tous les jardins flottants. Vous avez des vrais jardins avec des fleurs, c'est étonnant ce culte de l'eau et de vivre non seulement sur l'eau mais avec l'eau et par l'eau, les pêcheurs bien évidemment. Donc c'est une très belle carte postale. J'en ai, avant celle de Michel Yves, j'en ai une autre à vous suggérer parce que si vous avez 2-3 jours un peu creux dans votre séjour en Birmanie, je vous recommanderais bien d'aller tout simplement dans le fin fond de la campagne. Alors vous choisissez un village où vous allez vous arrêter en allant par exemple de Yangon jusqu'à Mandalay, il y a 250 km entre les deux villes. Vous allez tourner à gauche et vous allez arriver vers un petit village qui s'appelle Piai, P-Y-A-Y. Pourquoi faire ? Tout simplement pour vous immerger, mais alors à 100%. Hein. Là, c'est roots, c'est nature et brut de décoffrage, y compris pour ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation. Mais vous allez tomber sur des villages qui ont une activité très particulière, c'est celle du bois. Alors, il y a peu de scieries, mais il y a beaucoup de fermes, on va appeler ça comme ça, qui s'occupent d'aller débarder le bois qui a été coupé, en particulier le teck, dans les forêts qui sont alentour. C'est une région de collines, voire de montagnes, toutes vertes. D'abord, c'est très beau à regarder. Et deuxièmement, oh, surprise, ces gens travaillent avec des éléphants. Et avec ces éléphants, eh ben, tout simplement, ils vous invitent, ils vous proposent de les accompagner en forêt. Alors, vous allez passer 24 ou 48 heures avec eux, avec votre propre éléphant, pour aller tirer du bois et vivre comme ils le font, eux, depuis des siècles. Pour vous, c'est une nouveauté, mais je vous promets que vous en souviendrez pendant toute votre vie.
Eh ben ça nous donne envie d'y aller. Moi, j'ai trouvé que le lac Inlay devenait un petit peu quand même touristique. Enfin, il y a beaucoup de touristes et qu'il y a un circuit des artisans qui est un petit peu
mercantile.
Oui, c'est vrai. Je suis pas persuadée que ce soit très utile, mais voilà, c'est une opinion
personnelle. Mais néanmoins, quand on est au bord du lac, on se réveille le matin et qu'on voit ce site, c'est admirable. Et si vous êtes sur la rive oriental, je dirais, là vous avez le droit au coucher de soleil le soir, ça c'est absolument splendide. Avec toujours, il y a toujours le pêcheur qui est là avec sa barque et puis sa jambe.
Sa jambe, oui, parce qu'il rame, il rame avec sa jambe.
Vous pouvez pas louper votre photo, quoi. Hein, je veux dire, c'est.
Et puis c'est une région qui offre aussi beaucoup de choses en fait. Vous pouvez tout à fait partir en randonnée à la journée ou même sur plusieurs jours dans l'état Shan et vous allez dormir dans des villages, dans des monastères. Il y a énormément de balades à vélo. Vous avez des vignes. Vous avez, c'est vraiment le potager de la Birmanie.
Même un golf. Il y a même un golf.
Il y a des vignes, effectivement, on peut faire des dégustations.
Et il n'est pas si mauvais.
Marion Sabrier, Marion Sabrier, des remarques à faire sur le lac Inlay ?
Alors, sur le lac Inlay, il y a également des vignobles aussi à aller voir, bon, qui ne sont pas traditionnels à la culture birmane, mais en tout cas, qui sont très intéressants à aller voir. Et là, je recommande les randonnées soit à la journée, soit même voir sur plusieurs jours. Si c'est sur plusieurs jours, c'est vrai qu'on a le temps de pouvoir en fait aller dormir soit dans les monastères, soit dans les villages alentours. Et là aussi, on peut vraiment s'immerger dans la culture Shan, mais également en fait d'autres ethnies comme les Paro, par exemple.
C'est un pays, on l'a dit au début, qui est très très spirituel, où vraiment la religion et le bouddhisme est présent, omniprésent dans cette société. Marion Sabrier.
Oui, tout à fait. Il y a des pagodes un peu partout. On va dire que c'est véritablement en fait, c'est pas seulement en fait une religion, c'est plus une sorte de mode de vie aussi. Où c'est vrai que des enfants aux personnes plus âgées, en fait, tout le monde va pratiquement prendre un temps, en tout cas dans la journée, par exemple, pour faire de la méditation. Il y a aussi une importance du don, donc de la charité, on va dire. Et c'est vrai que ça, c'est le cas, en fait, on va dire, pour la religion bouddhique, donc pour l'ethnie majoritaire, les Birmans. Mais après, chacune des ethnies, en fait, a aussi sa religion, et c'est vrai qu'on trouve en tout cas une très grande spiritualité.
Quelques mots sur le balnéaire, donc Napali. Beaucoup de gens vont en Birmanie pour découvrir ces plages. On reviendra sur ce que vous nous disiez sur le sud de la Birmanie qui se développe, mais ce sont des belles plages.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui va pour les plages. C'est très, très
marginal. Il faut avoir un petit peu de temps. C'est-à-dire que sur une quinzaine de
temps.
En général, quand ils y vont, il faut y aller en avion.
Il faut rester quand même un petit peu sur place. Il y a déjà tellement de choses à voir en Birmanie que du coup, on est déjà sur un voyage d'un peu plus de 15 jours si on se rend notamment à Napali. Mais effectivement, ce sont des très belles plages, tranquilles.
Mais difficiles d'accès. C'est pour ça aussi qu'elles sont restées tranquilles.
Ça rajoute au budget de reprendre des vols.
Et ça nécessite au moins 3 ou 4 jours supplémentaires.
Bien sûr, sinon ça ne vaut pas le coup d'y aller.
Et donc le sud essaye de se développer.
Oui, l'archipel des Merguez, mais c'est immense, il y a 800 îles, vous vous rendez compte, on n'en viendra jamais au bout. Sauf que ça commence de plus en plus sur le principe des îles-hôtels, ou tout au moins d'un hôtel qui rayonne sur plusieurs îles. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est la qualité des eaux, la qualité des plages. Comme elles n'ont jamais été surfréquentées, donc il n'y a pas encore de pollution, il n'y a pas encore de mauvaises surprises quand on arrive. La construction des hôtels, je suis un peu plus sceptique, c'est-à-dire il y en a certains qui sont très bien, mais la plupart, ça laisse encore à désirer. Et le deuxième intérêt, c'est la population locale, c'est-à-dire c'est une ethnie, les gitans de la mer, comme on les appelle, qui, à la suite d'une légende, n'ont pas eu accès à l'habitat terrestre, c'est-à-dire que ces gens-là ne pouvaient pas s'installer sur le continent. Alors ils ont développé un mode de vie pendant 2 ou 3 siècles où ils vivaient à bord de leurs bateaux, et on a encore énormément de chantiers navals qui construisent des bateaux sur lesquels vit toute une famille en permanence. Ça a beaucoup changé depuis que le développement touristique a été acté par la junte au pouvoir en Birmanie, et que des Birmans traditionnels, continentaux, sont venus jusque vers l'archipel des Merguez, tout simplement pour s'occuper des affaires courantes, de l'administration, etc. Et ces nomades de la mer ont bien compris que leur avenir était un petit peu bouché dans leurs activités, donc il était préférable qu'eux aussi se sédentarisent à terre, ce qui est le cas aujourd'hui. Il reste allez, quelques milliers de vagabonds des mers. Pour vous donner une idée, ils pêchent encore de manière traditionnelle, c'est-à-dire à l'arc et au harpon. Vous voyez que ça ne fait pas des productivités énormes, mais au moins le poisson il est frais.
Là, on y va par la Thaïlande.
Également par la Thaïlande. Sinon, de Birmanie, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre l'avion depuis Rangoon. Et puis ensuite, il faut prendre un bateau. Souvent, pour arriver sur les îles où il y a un hôtel dans cet archipel, il faut 2, 3, voire 4 heures de bateau. Bref, c'est un long voyage qui rajoute sur ce que vous avez déjà vu de la Birmanie. Il est hors de question d'aller en Birmanie uniquement pour être sur ces îles des Merguez. Il faut d'abord avoir vu, le lac Inay, Bagan, etc. Donc, c'est la fin du voyage où vous profitez de passer 3-4 jours donc, sur cet univers juste paradisiaque et toujours paradisiaque. Allez-y vite.
Oui, on va passer à la carte postale de Michel-Yves Labbé. Je vais vous laisser, Marion Sabrier. Merci d'avoir été avec nous. Juste une dernière chose, votre petit dictionnaire s'ouvre sur le chiffre 1500. Racontez-nous ce que c'est.
Alors 1500, en fait, en birman, c'est Natang. Et en fait, les amoureux peuvent se dire, par exemple, Natang Peba, ça veut dire en fait, donne-moi ton amour. Donc ça peut être soit en fait pris sous le ton un peu badin de la blague, soit sérieusement. Donc c'est ce que les amoureux en fait en Birmanie peuvent se dire de l'un à l'autre. Et donc c'est aussi ce qu'on peut voir écrit parfois en fait sur des coins de table, par exemple à l'université.
1500, parce qu'il y aurait 1500 façons d'exprimer son amour et la passion, alors que le chiffre 528 désigne l'amour familial et amical, comme quoi. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Marion Sabré. Votre livre est indispensable quand on veut aller en Birmanie, Dictionnaire insolite de la Birmanie aux éditions Cosmopol. Merci à vous. Michel-Yves, alors merci. Où est-ce que vous nous emmenez ?
Alors, moi, ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait le portrait d'un hôtel dans cette chronique.
Ça faisait longtemps que j'attendais.
Alors, cette fois, je reviens à cet exercice. Je vais vous parler d'un hôtel de Rangoon, le Strand, The Strand. Un des hôtels mythiques de l'Asie du Sud-Est. Alors, son histoire commence à Ispahan, en Iran. C'est celle d'une famille perse d'origine arménienne, les Sarkissians. Ils sont 4 frères, ils ont raccourci leur nom en Sarkis. C'est moins typé à une époque, à la fin du 19e siècle, où les génocides commencent à être dans l'air du temps. Hein. Les frères Sarkis sont des commerçants aisés. Ispahan est une étape importante sur la route de la soie. Commerce Est-Ouest passe par là. Arrive l'ouverture en 1869 du canal de Suez. Il ne faut pas longtemps à nos amis arméniens pour comprendre que la ville va être squeezée par cette nouvelle voie maritime, ce qui arriva rapidement d'ailleurs. Ils décidèrent d'aller tenter leur chance en Asie. Les pays s'y ouvraient au commerce avec l'Occident. Il y avait tout à faire. Leur premier point de chute fut la Malaisie, et plus précisément Penang, à l'époque une ville importante et un comptoir anglais au débouché des détroits de Malacca. Le premier des Sarkis à s'y installer se nommait Tigrane. Son idée, le tourisme allait se développer dans l'Asie du Sud-Est, il y a tant à voir, et pas un seul hôtel de qualité pour accueillir ses futurs touristes. Il achète un premier établissement à Penang, l'Eastern Hotel, le met aux normes modernes de l'époque, on est en 1884, il offre un service et un confort inégalés. Un peu plus tard, il fusionne avec l'Oriental Hotel voisin, et cela devient l'Eastern and Oriental Hotel, qui existe toujours, un peu fatigué certes, mais avec de beaux restes, je vous en parlerai un jour sans doute. Le même système fut appliqué à Singapour, où les Sarkis firent d'un petit hôtel banal, le majestueux Raffles. Rejoint par son frère Aviat, il décide de racheter un hôtel bâti en style victorien au bord de la rivière de Rangoon, le Strand. Là aussi, ils en firent le palace de la ville. Vint la crise de 1929. Les Sarkis perdirent beaucoup avec cette crise. Plus personne ne voyageait pour le plaisir. Les riches étaient aux abonnés absents. Leur empire hôtelier vacilla et tomba. Le dernier des Sarkis, Arshak, déclaré en faillite en 1931, se fit emmener en barque au large. Il enleva sa Rolex en or et sa gourmette, il les donna aux marins et il plongea dans l'eau et se noya. Il ne se voyait pas vivre pauvre. Fin de l'histoire, mais pas fin des hôtels. Le Strand vécut des années difficiles, abandonné jusqu'en 1937, où un entrepreneur birman le rachète et lui fait subir une rénovation coûteuse mais nécessaire. À l'époque, l'hôtel ne reçoit que des Occidentaux, blancs de préférence. Pas un birman n'est accepté. En 1941, il abrite le quartier général des Japonais qui occupent le pays. Ce n'est qu'en 1945, libéré des Nippons, que le Strand va enfin accueillir ses premiers clients birmans, 44 ans après son ouverture. Une société publique le rachète en 1963, mais s'en occupe guère, le bâtiment se flétrit. Il faudra attendre 1989 pour qu'il passe aux mains d'un groupe d'investisseurs locaux, lesquels le font rénover à grands frais. En 1993, le Strand rouvre dans toute la splendeur et le charme de son passé colonial. Et ces deux dernières années, de nouvelles rénovations en ont fait une adresse incontournable du voyageur amoureux des beaux hôtels. Alors, disons-le tout de suite, pour moi, il n'est pas super bien placé. C'est sûr qu'au début du XXe siècle, le quai était l'emplacement idéal, d'autant que le tram passait devant. Aujourd'hui, le centre-ville est beaucoup plus loin. Le quartier du Strand n'est pas terrible, pas destiné à abriter un hôtel de luxe. Du coup, on n'y va que pour l'expérience, et ça vaut la peine. C'est un petit hôtel, 32 chambres seulement, de belles portes en bois, l'isole du vacarme du quai. On entre dans un sérail. Et ce qui frappe en premier, c'est l'odeur du bois, santal, cèdre ou autre essence, exotique pour nous, domestique pour eux. Ajoutez à l'ambiance les battements réguliers des pales de ventilateurs accrochés au plafond et le puits de lumière du patio, entouré d'un superbe escalier montant à l'assaut de 3 étages où passent les silhouettes furtives des butlers en uniforme. Le café, tout de suite à gauche, est une merveille de jardin d'hiver, sauf qu'il n'y a pas d'hiver ici. On y sert breakfast et 5 o'clock tea à l'anglaise. Sur la droite, le bar, un peu sombre, un long comptoir de joli bois auxquels se sont accoudés Kipling, Somerset Maugham, Malraux ou Orwell, qui fut, on le sait, gendarme de Sa Majesté en Birmanie. Le soir, on y retrouve une population de voyageurs à l'affût du frisson des souvenirs de quelques aventuriers ou réputés tels qui racontent la vraie vie à l'extérieur de cette oasis de civilisation qu'est le Strand. Un peu bruyant ce bar d'ailleurs, les Américains se sentant obligés de brailler pour être à l'aise. Qui sait, parmi ces assoiffés, que son nom de Sarkis Bar lui vient du fondateur venu de Perse bâtir ce joyeux hôtelier au bord de la rivière de Yangon. Continuons, voulez-vous ? Un peu après le bar, une merveilleuse boutique galerie d'art sur 2 étages. Inutile de chercher ailleurs, tout ce qu'il y a de plus beau en artisanat birman est ici. C'est pas donné, mais c'est superbe. Le restaurant gastronomique est de haut niveau, mais s'adresse plutôt à une clientèle locale, aisée ou aux expats en mal de plats occidentaux et d'atmosphère compassée. Les chambres sont délicieusement rétro, avec de hauts plafonds, des vieux lits coloniaux et leurs montants soutenant autrefois les moustiquaires. L'hôtel étant entièrement déclimatisé, celles-ci ont disparu, les moustiques aussi, a priori. Les planchers de bois craquent, luisent et embaument la pièce. Salle de bain victorienne, mais tout le confort moderne, dont progrès indéniable, le Wi-Fi. Il faut se rappeler qu'il y a à peine 7 ans, Internet n'était pas autorisé en Birmanie, que le GSM était uniquement domestique. Alors un beau bureau et son fauteuil sont là, qui semblent avoir accueilli à l'instant l'un de nos écrivains aventuriers fidèles du Sarkis Bar, qui aurait commis ici une page d'histoire de la littérature. Des photos noires et blancs sur les murs rappellent ce temps béni des colonies, enfin béni, pas pour tous quand même. Hein. La superbe suite du Strand, 200 mètres carrés au dernier des trois étages, a vu passer tant de célébrités, dont Mick Jagger, qui semble avoir laissé un souvenir impérissable au butler, un homme d'une classe folle, sans doute apprise dans les meilleures écoles anglaises. Enfin, dernière nouvelle qui pétrifie définitivement les contempteurs du Strand, qui l'oppose systématiquement à la Governor's Residence, le Strand a enfin une piscine, splendide au demeurant, ouverte tout récemment avec un petit spa adjacent. Dès lors, plus aucune raison objective de ne pas descendre au Strand, y vivre un moment d'histoire coloniale, et comme moi j'en suis sûr, vous allez l'adorer.
Et on dort dans quelle chambre alors, dans la suite?
Si, on peut, oui. Si on peut, c'est oui. Pas si cher que ça,
c'est
d'ailleurs.
C'est pas si cher que ça. Vous, votre préférence est pour le Strand ou le Governor's House, Aurélie?
Bah, moi, je l'ai visité à l'époque où il n'y avait pas de piscine au Strand. Et vu le climat à Rangoon, je trouvais quand même que les jardins du gouverneur avec sa piscine aspiraient à un calme et à une fraîcheur. Mais effectivement, j'ai hâte de le voir avec sa nouvelle piscine et son histoire. Effectivement, tous ces écrivains et ces personnalités qui y sont allés, ça rajoute toujours au cadre.
Ouais. En tout cas, conclusion, c'est un pays où il faut aller, où il est urgent d'aller pour... Parce que c'est un pays unique, magique et à découvrir encore une fois très rapidement. Vous dites que le tourisme s'est un petit peu ralenti, ça veut dire qu'il reste de la place, en tout cas à Noël dans certains endroits. Et puis allez-y hors saison, sortez des sentiers battus. Je vous rappelle encore une fois le dictionnaire insolite de la Birmanie. Vous trouverez énormément de petites informations passionnantes dans ce livre. Merci à tous les trois, à tous les quatre avec Marion.
528 et 1500 à vous.
1500. Voilà, vous avez retenu, c'est bien. Allez, à la prochaine fois.